Vous écoutez, on lit pour vous.
Briser le silence sur l'autisme féminin. Voici le but de l'autrice Mélissa Perron avec Femme caméléon. Un texte de Marie-France Bornet paru le 30 mars 2025 dans le Journal de Montréal. À 38 ans, Mélissa Perron reçoit un diagnostic qui va changer sa vie. Vous êtes une femme autiste. Je n'ai aucun doute là-dessus, prononce la psychologue. Elle fond en larmes. Pour elle, ce n'est pas simplement un diagnostic qui vient de lui être annoncé, c'est un passeport pour une nouvelle vie. Enfin, après des années d'errance médicale, sa quête est terminée, mais sa mission, elle, continue. Elle publie ce printemps « Femme caméléon », un ouvrage illustré d'une vérité criante qui raconte son histoire. Dans « Femme caméléon », Mélissa Perron raconte son enfance, vécue comme dans un aquarium déposé dans la mer, son adolescence de décrocheuse où des pensées sombres l'habitent, sa douce remontée à la surface, à l'âge adulte, où elle découvre enfin que sa différence porte un nom. Son récit illustré, qui ne laissera personne indifférent, s'adresse à toutes les femmes caméléons qui, comme elle, camouflent ou ont camouflé leurs vraies couleurs pour survivre parmi les autres. Il s'adresse aussi à ceux et celles qui les côtoient pour qu'ils comprennent mieux. Souvenirs douloureux. Écrire et illustrer « Femme caméléon » a été loin d'être facile pour Mélissa Perron, une artiste talentueuse qui s'est replongée dans des souvenirs douloureux et des moments marquants de sa vie. De l'enfance à l'âge de 38 ans, elle a enduré un vrai calvaire. Heureusement, aujourd'hui, c'est mieux et elle peut avancer. J'ai écrit cette histoire pour qu'elle ne se multiplie pas. En 2025, je sais que ça se passe encore, des diagnostics qui sont erronés, parce que l'autisme chez la femme n'est pas connu, dit-elle en entrevue. Moi, avec mon court billet dans la presse en 2021, qui s'appelait aussi « Femme caméléon », j'ai reçu des centaines et des centaines de messages en privé de femmes qui se sont reconnues. Je me suis dit « Ah, mon Dieu », ajoute-elle. J'avais écrit « Belle comme le fleuve », qui avait surfé un peu sur l'autisme au féminin, avec Fabienne. Les femmes venaient me voir au Salon du Livre et on pleurait ensemble parce qu'il y avait des femmes de 40, 50, 60 et 70 ans qui s'étaient reconnues et qui étaient allées chercher leur diagnostic. En parler publiquement. Elle a pris une décision, arrêter de se cacher derrière des personnages et en parler. Je sais que c'est comme un journal intime. Ce livre-là me réveille depuis des mois parce que je me dis « Ah, mon Dieu, est-ce que je fais vraiment ça? Est-ce que je me mets comme ça, toute nue, sur la place publique? » Mais je le fais pour mes filles. Je le fais vraiment pour les femmes, pour donner un éclairage important, pertinent. Je ne le fais vraiment pas pour moi. C'est pas une action égoïste ni narcissique. Une histoire dure. Mélissa Perron révèle les choses telles qu'elles sont. Je pense que ce livre devait avoir des illustrations pour adoucir le propos, pour adoucir l'histoire. C'est une histoire quand même dure. J'ai en tête le petit bouquet de fleurs à l'envers, dit-elle en faisant référence à un moment de grande détresse dont elle parle dans le livre. Elle a parfois eu l'impression de tourner le fer dans la plaie. Je suis allée all-in, mais j'ai quand même filtré des choses. J'ai écrit mon texte pendant des mois et après, j'ai fait le travail d'illustration. C'était très émouvant de se replonger là-dedans. C'était « Briser le silence sur l'autisme féminin ». Voici le but de l'autrice Mélissa Perron avec « Femme caméléon ». Un texte de Marie-France Bornet paru le 30 mars 2025 dans le Journal de Montréal.
Muette, elle retrouve sa voix grâce à un implant cérébral. Un texte de Cassandre Rogeret, paru le 3 avril 2025 sur handicap.fr. Traduire ses pensées en paroles grâce à un implant cérébral et à l'IA? C'est la prouesse réalisée par des chercheurs américains qui ont permis à Anne, tétraplégique et muette depuis un AVC à 30 ans, de retrouver sa voix. accessible dès 2030? Je pense donc, je parle. À 47 ans, Anne dépoussière la célèbre maxime de Descartes. Parler, un rêve que cette Canadienne ne pensait jamais pouvoir exaucer, ayant perdu cette capacité à la suite d'un accident vasculaire cérébral, AVC, qui l'a rendue tétraplégique 17 ans plus tôt. C'était sans compter l'ingéniosité d'une équipe de chercheurs des unités de Berkeley et San Francisco, États-Unis, qui a conçu une neuroprothèse dopée à l'intelligence artificielle, IA, permettant de traduire les pensées en paroles de manière quasi instantanée. Une innovation qui laisse sans voix, publiée dans la revue scientifique Nature Neuroscience le 31 mars 2025. Une voix artificielle similaire à la sienne. Cette nouvelle interface cerveau-ordinateur repose sur un implant non-invasif placé à la surface du cerveau. Quand Anne pense une phrase, l'outil capte l'intention, l'analyse puis la transforme en parole grâce à une voix artificielle similaire à la sienne créée à partir d'anciennes vidéos de son mariage. Grâce à son système de prédiction, il peut même élaborer la phrase en devinant les parties manquantes. Pour ce faire, l'ancienne enseignante a dû entraîner l'algorithme durant plusieurs mois en prononçant dans sa tête des milliers de phrases projetées sur un écran, puis en les articulant en silence afin qu'il apprenne à associer chaque signature neuronale à un phonème. Un temps de réponse record pour plus de spontanéité. Mais la valeur ajoutée de ce dispositif est sans nul doute son délai de réponse record de 80 millisecondes contre 8 secondes auparavant, qui permet de fluidifier les conversations. Citation : La communication orale naturelle se produit instantanément. Les retards de parole de plus de quelques secondes peuvent perturber le flux naturel de la conversation, expliquent ses concepteurs dans Nature Neuroscience. Cela complique la participation des personnes paralysées à un dialogue, ce qui peut conduire à des sentiments d'isolement et de frustration. Fin de citation. Entre 47 et 91 mots déchiffrés par minute. En effet, cet outil est capable de déchiffrer entre 47 et 91 mots à la minute, sachant qu'un adulte en formule habituellement environ 150 lors d'un échange courant. Une véritable amélioration pour Anne qui utilisait jusqu'à maintenant un système lettre à lettre capable de produire 14 mots par minute. Cette nouvelle version génère ses phrases à partir d'un vocabulaire limité, pour l'heure à 1024 mots, un nombre déjà conséquent qui sera sans nul doute perfectionné dans les années à venir. Des aménagements à envisager. Seul hic, ce système ne propose pas les changements de ton ou de volume qui reflètent les émotions et est composé d'accessoires imposants tels qu'une batterie d'ordinateur qui rendent son utilisation dans la vie quotidienne complexe. Les scientifiques planchent donc actuellement sur sa miniaturisation ainsi que son automatisation pour qu'il puisse fonctionner sans la présence d'ingénieurs. Une technologie accessible en 2030? Si cette technologie est encore expérimentale, les chercheurs envisagent de la rendre accessible d'ici 5 à 10 ans, puis de l'étendre à d'autres pathologies, plus lourdes, empêchant les patients d'articuler même silencieusement. De quoi redonner de l'espoir aux personnes atteintes de paralysie vocale et à Anne qui avait abandonné une autre de ses aspirations, devenir conseillère dans un centre de rééducation. C'était « Muette, elle retrouve sa voix grâce à un implant cérébral », un texte de Cassandre Rogeret paru le 3 avril 2025 sur handicap.fr.
Une collaboration nationale permet d'obtenir une subvention de 860 000 $ pour améliorer l'accès aux équipements pour les para-athlètes canadiens. Un texte d'Alice Girard-Bossé, paru le 30 mars 2025 dans la presse. Le réseau des instituts du sport olympique et para-olympique du Canada, RISOPC, le comité paralympique canadien, CPC, et Red Deer Polytechnique, RDP, ont reçu une importante subvention de 860 000 $ pour soutenir un projet national novateur visant à améliorer l'accès à des équipements sportifs sécuritaires, de haute qualité et mieux adaptés pour les para-athlètes à travers le Canada. Le projet, intitulé « Accroître l'accessibilité aux équipements spécialisés pour les sports paralympiques au Canada grâce à une conception et une fabrication avancée », est évalué à environ 860 000 $ sur 3 ans. Ce projet est soutenu par une subvention de recherche appliquée de 450 000 $ du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, CRSNG, une subvention de 300 000 $ du programme Campus Alberta Small Business Engagement d'Alberta Innovate et une contribution de 112 500 $ du RISOPC et du CPC. Avec les contributions en biens et services des partenaires du projet, la valeur totale du projet est d'environ 1,15 million de $. Cette initiative concertée rassemble des experts en sciences du sport, en ingénierie et en fabrication de pointe pour relever un défi bien connu en parasport. Les para-athlètes ont souvent du mal à accéder à des équipements qui leur conviennent, qui sont performants et qui sont abordables. Le projet vise à transformer la façon dont les équipements adaptés sont conçus, fabriqués et accessibles, afin de permettre à un plus grand nombre d'athlètes de participer et d'exceller dans le sport. Nous sommes fiers de mettre notre expertise au service de ce projet en proposant des solutions inclusives qui améliorent le quotidien des athlètes paralympiques au Canada et ailleurs, a déclaré Tonya Wolf, vice-présidente associée de la recherche appliquée à Red Deer Polytechnic. Les forces de RDP en matière de recherche appliquée, en particulier notre capacité à faire le lien entre la technologie et les besoins sociaux grâce à une approche multidisciplinaire, sont essentielles pour stimuler l'innovation et illustrent la façon dont les écoles polytechniques sont particulièrement bien placées pour diriger les collaborations entre l'industrie et les innovateurs. Le projet sera lancé en mettant l'accent sur le para-hockey sur glace et s'étendra à d'autres sports paralympiques dans les phases ultérieures. Grâce à une collaboration entre le Centre pour l'innovation dans le secteur manufacturier, Centre d'accès à la technologie, CIM-TAC, du RDP, l'Institut canadien du sport de l'Alberta et Bowhead Corporation, les chercheurs travailleront directement avec les athlètes pour étudier l'impact de la conception des équipements sur le confort, les mouvements, la sécurité et les performances. À l'aide d'outils tels que l'impression 3D, les capteurs intelligents, les logiciels de simulation et la modélisation statistique des formes, l'équipe concevra et testera des solutions propres à chaque sport qui seront à la fois efficaces et évolutives. Nous sommes très fiers de travailler aux côtés du RISOPC et de Red Deer Polytechnic sur ce projet porteur de changement, a déclaré Catherine Gosselin-Després, directrice sportive du Comité paralympique canadien. L'équipement est essentiel à une expérience positive dans le sport paralympique. Grâce à un accès plus facile et plus abordable à des équipements adaptés et spécifiques à chaque sport, davantage d'athlètes en situation de handicap peuvent profiter pleinement des bienfaits du sport et atteindre leurs objectifs, que ce soit au niveau récréatif, national ou international. Ce projet illustre la valeur de la collaboration et du rassemblement d'experts dans différents domaines pour créer un impact encore plus grand. Et nous pensons qu'il a le potentiel de transformer le parasport à travers le Canada en supprimant les obstacles et en ouvrant de nouvelles voies pour s'impliquer. L'accès au bon équipement peut faire la différence entre une simple participation et une réelle excellence, a déclaré Eric Groves, chef de projet pour le RISOPC et directeur de la recherche et de l'innovation à l'Institut canadien du sport de l'Alberta. En combinant les connaissances des athlètes avec une conception et une fabrication innovantes, nous faisons en sorte que les para-athlètes puissent concourir en toute confiance avec des équipements spécialement conçus pour eux. Outre les experts de l'ICS Alberta, des experts provenant d'autres membres du réseau pourraient être mis à contribution pour ce projet. La phase finale du projet consistera à utiliser les données de scanners corporels 3D recueillies auprès d'un groupe pouvant aller jusqu'à 50 para-athlètes pour soutenir une fabrication à plus grande échelle, tout en maintenant un ajustement personnalisé. En plus d'améliorer l'accès aux équipements et les performances, le projet contribuera à développer les secteurs des technologies et de la fabrication reliés au sport au Canada, à créer des possibilités de formation pour les étudiants et les professionnels, et à favoriser des expériences sportives plus inclusives à l'échelle nationale. Le projet commencera au printemps 2025 et s'étalera sur 3 ans et comprendra 4 phases clés. Les 3 premières phases suivront une méthodologie de conception centrée sur l'humain pour guider la recherche et le développement des équipements. Chacune de ces phases se concentrera soit sur un groupe d'athlètes avec des classifications différentes, soit sur un sport différent et inclura 4 nouveaux athlètes paralympiques dans chaque étude pilote. La méthodologie de conception consiste à travailler avec les athlètes pour identifier les besoins et les défis en matière d'équipement, puis à simuler et à imprimer en 3D pour construire et tester de nouveaux équipements. Ces modèles intègrent ensuite les commentaires des athlètes, les données biomécaniques et les paramètres de sécurité et sont optimisés pour la fabrication. La 4e phase utilise la modélisation des formes et les données de numérisation des athlètes pour développer des solutions d'équipement évolutives et optimisées. Cet effort de collaboration représente une étape importante vers l'équité, l'innovation et la performance dans le sport paralympique canadien. C'était une collaboration nationale permet d'obtenir une subvention de 860 000 $ pour améliorer l'accès aux équipements pour les para-athlètes canadiens, un texte d'Alice Girard-Bossé paru le 30 mars 2025 dans La Presse.
Une meilleure qualité de vie grâce à la dialyse à domicile. Un texte d'Audrey Folio, paru le 29 mars 2025 dans le Journal de Montréal. De plus en plus de gens qui souffrent d'insuffisance rénale chronique terminale doivent suivre des traitements de dialyse à l'hôpital. Ils sont longs et exigeants pour les patients. Dans le but d'améliorer leur qualité de vie et de favoriser leur autonomie, on leur propose maintenant de procéder à leur traitement eux-mêmes à domicile. L'insuffisance rénale chronique, c'est quand les reins d'une personne ne fonctionnent plus correctement et que les déchets s'accumulent dans son sang. Il faut alors filtrer le sang à l'aide d'une machine. C'est ce qu'on appelle l'hémodialyse. Janine Akizimana en souffre. Quand elle a commencé ses traitements d'hémodialyse, il ne lui restait que 5 % de fonction rénale. Comme 25 % des gens diagnostiqués, elle avait peu de symptômes annonçant que ses reins ne fonctionnaient plus au maximum de leur capacité, outre un peu de fatigue. Au début, ça fait peur. On a beau dire qu'on va bien, mais ça fait quand même peur de voir toutes ces machines et de se dire que c'est avec ça qu'on va vivre, explique la femme de 61 ans. Pour survivre, les patients doivent donc se rendre au moins 3 fois par semaine à l'hôpital pour 4 heures de dialyse. Le traitement est très prenant et rend très difficile la conciliation travail, famille, études, traitement. Les gens qui ont besoin de dialyse ont une qualité de vie souvent très diminuée, on dit même plus basse que quelqu'un avec un cancer. Donc c'est assez difficile chroniquement, illustre la docteure Annie-Claire Nadeau-Fredette, néphrologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal. Se soigner soi-même à la maison. Pour 2025-2026, Québec souhaite que 40 % des nouveaux patients s'auto-administrent leur traitement de dialyse à la maison. À domicile, les patients procèdent à 8 heures de dialyse tous les deux jours, souvent la nuit. Ils n'ont pas à se déplacer à l'hôpital et deviennent ainsi maîtres de leur traitement et de leur temps. C'est d'ailleurs ce que fait Mme Akizimana depuis un an. En attente d'une greffe, elle ne voit que des avantages à se soigner chez elle. L'exemple que je donne souvent, c'est si j'ai une activité en soirée, je vais la faire et je vais programmer ma dialyse un peu plus tard, explique Mme Akizimana. En plus de doubler le temps de traitement, de 12 heures à environ 28 heures par semaine, la dialyse à domicile améliore grandement la qualité de vie des patients. Elle est aussi beaucoup moins exigeante pour le corps, puisqu'on enlève le liquide du sang plus lentement. Les patients tolèrent mieux la procédure au niveau cardiaque et subissent moins de chutes de pression. C'est comme si on passait d'une course sur un tapis roulant pendant 4 heures versus une marche de santé de 8 heures, explique Joanie Saint-Jean, infirmière clinicienne et assistante infirmière-chef de la suppléance rénale autonome au CIUS de l'Est de l'île de Montréal. C'est comme s'ils étaient greffés. Ils vont vraiment sentir beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup moins d'hospitalisations aussi liées à l'insuffisance rénale et beaucoup moins de complications aussi liées à l'hémodialyse, ajoute-t-elle. La greffe rénale demeure le meilleur traitement pour les gens vivant avec une insuffisance rénale. Or, malheureusement, il y a un certain temps d'attente. On favorise les dons vivants quand c'est possible, dit la docteure Nadeau-Fredette. Il y a aussi des patients qui ne sont pas des candidats à la greffe rénale pour différentes raisons. Donc, c'est important malgré tout d'améliorer la vie des patients en dialyse parce que ça peut être un traitement dont ils ont besoin pour plusieurs années. Une formation de 15 semaines. La néphrologie fait partie des trois domaines d'excellence de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui figure au premier rang de la province quant au nombre de traitements offerts annuellement par un service d'hémodialyse centralisé. TVA Nouvelles a pu visiter le Centre intégré de dialyse Raymond Barcelot. C'est là qu'une équipe de 4 infirmières offre une formation de 9 à 15 semaines aux patients pour qu'ils puissent prendre en charge leur traitement. Comment fonctionne l'appareil? Comment réagir en cas d'urgence? Comment faire pour mettre les aiguilles au niveau de leurs bras s'ils ont une fistule? Donc, c'est vraiment un enseignement qui est très complet. Et quand les patients quittent l'hôpital pour faire leur traitement à domicile, ils sont très bien formés, indique la néphrologue Annie-Claire Nadeau-Fredette. Rencontré sur place, Daniel Guthrie peut en témoigner. Depuis mai 2023, l'homme se déplace à l'hôpital 3 fois par semaine, à coût de 5 heures, pour recevoir ses traitements d'hémodialyse. Grâce à la formation qu'il a reçue, il sera bientôt un mini-expert de sa maladie et saura comment faire fonctionner la machine. Les infirmières sont là pour nous sécuriser, pour nous montrer toutes les étapes, parce que c'est quand même assez technique, dit-il. M. Guthrie se joindra bientôt aux 33 patients de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont actuellement soignés à domicile. « J'ai hâte », conclut-il. C'était « Une meilleure qualité de vie grâce à la dialyse à domicile », un texte d'Audrey Folliot paru le 29 mars 2025 dans le Journal de Montréal.
Près d'un enseignant sur 5 songe à quitter son emploi. Un texte de Daphné Dion-Vien, paru le 31 mars 2025 dans le Journal de Montréal. Près d'un enseignant sur 5, 18 % songe à quitter son emploi, selon une vaste enquête de l'Institut de la statistique du Québec publiée lundi. Réalisée à la demande du ministère de l'Éducation, l'enquête québécoise sur la satisfaction au travail du personnel scolaire vise à alimenter la réflexion concernant les moyens à mettre en place pour favoriser la rétention des employés dans le réseau scolaire, peut-on lire. Près de 10 000 profs, employés de soutien et professionnels y ont participé entre octobre 2023 et février 2024 dans le contexte de grève qui a précédé le renouvellement des conventions collectives. Plus de la moitié des répondants sont des enseignants. On y apprend que 17,8% d'entre eux ont une faible intention de rester en emploi. Citation, c'est un indicateur particulièrement inquiétant. Fin de citation, affirme Simon Vivier, professeur à l'Université Laval qui s'intéresse à ces enjeux. Cette proportion est plus élevée, plus de 20%, parmi les profs qui ont de 6 à 20 années d'expérience, qui travaillent en moyenne 41 heures et plus par semaine ou qui sont temporaires. Les enseignants qui ont un faible sentiment d'autonomie, de soutien social et de compétences sont aussi plus susceptibles de quitter leur emploi, tout comme ceux qui ont un plus fort sentiment d'impuissance au travail. Le scénario est semblable chez les membres du personnel de soutien. Citation, il faut améliorer les conditions de travail pour permettre au personnel scolaire d'avoir le sentiment de faire un travail de qualité. Fin de citation, affirme Simon Vivier. Ces données s'apparentent à celles publiées récemment par l'Institut national de santé publique, qui démontrait que 15% des enseignants avaient l'intention de quitter leur emploi dans la prochaine année, souligne-t-il. Nouveau contrat de travail. Cette enquête sera réalisée à nouveau en 2025-2026, ce qui permettra de voir comment la situation a évolué avec le renouvellement des conventions collectives. Depuis la rentrée, des milliers d'aides à la classe viennent maintenant prêter main-forte à des enseignants du primaire. Il s'agit d'un élément qui va dans la bonne direction, affirme M. Vivier, qui souligne toutefois que l'insatisfaction concernant la lourdeur de la tâche demeure pour de nombreux profs, notamment au secondaire. Il est là le nœud du problème, lance-t-il. Ce dernier se préoccupe par ailleurs du contexte d'austérité budgétaire imposé depuis l'automne au réseau scolaire. On n'est pas en train d'améliorer les choses, malheureusement, laisse-t-il tomber. Enquête québécoise sur la satisfaction au travail du personnel scolaire. 17,8% proportion des membres du personnel scolaire qui songent à quitter leur emploi. 19 à 22% proportion des membres du personnel scolaire ayant de 6 à 25 ans d'expérience qui songent à quitter leur emploi. Source, enquête réalisée par l'Institut de la statistique du Québec entre octobre 2023 et février 2024 auprès de 9 812 membres du personnel scolaire, dont 55% sont des enseignants. C'était « Près d'un enseignant sur cinq songe à quitter son emploi », un texte de Daphné Dion-Vien, paru le 31 mars 2025 dans le Journal de Montréal.